C'est au travers de différentes choses que j'ai vécues cette semaine que le thème que je voudrais apporter aujourd'hui et dans les deux prochains dimanches également est né, et je voudrais l'introduire de cette manière. Vous est-il arrivé d'être devant, à l'écoute ou devant les images d'une détresse et d'être littéralement remué, touché au plus profond de vous-même? Certainement, vous tous pouvez dire oui. Est-ce que ça vous est arrivé également d'être, dans d'autres circonstances, à nouveau confronté à une détresse, à des images peut-être, ou à une situation qui vous est présentée ou qui vous confronte, et là, bizarrement, vous ne ressentez plus rien du tout? Vous n'êtes pas touché. Vous êtes impassible. Et on réalise que être touché dans son cœur, oser s'ouvrir pour partager un peu la souffrance des autres, ce n'est de loin pas toujours normal. Cela dépend de notre sensibilité, ça dépend de notre disposition du moment. Et pourtant, que dit la parole de Dieu? Que dit ce livre? Que dit la Bible? La Bible dit à bien des reprises que nous avons, entre autres, c'est l'apôtre Pierre qui va le dire, nous avons tous... Et le mot « tous » est bien marqué. Nous avons tous besoin d'être animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, d'un amour fraternel sincère, de compassion et d'humilité. Car le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est le thème de la compassion. Et ce n'est pas un thème qui touche des gens sensibles et qui est peut-être le point fort de ces personnes qui ont une sensibilité naturelle et qui sont en émotion rapidement pour quelque chose. Mais la Bible dit que c'est pour tous, même pour les plus aguerris, les plus durs, entre guillemets, parmi nous. C'est la même chose, c'est la même parole pour tous. La Bible ne partage pas les gens sensibles et les gens qui sont moins sensibles. Elle dit à tous la même chose et le même message. Et je vais vous le conduire dans ce message pour cet enseignement de ce matin, pour que nous puissions être tous interpeller, aider, et que nous puissions tous être surtout encouragés. Lorsque vous regardez le serment sur la montagne, donc c'est Matthieu chapitre 5, 6 et 7, ce sont les premiers enseignements qui sortent de la bouche de Jésus au début de son ministère. Et ce serment sur la montagne démarre par ses célèbres béatitudes. Et dans les textes qui suivent, dans les trois chapitres principaux de Matthieu 5, 6, 7, nous voyons que Jésus va donner les fondements, les clés de base, les valeurs de base du royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu, il doit avoir ce genre de mentalité, ce genre d'expression. Il doit vivre ce que je vous enseigne. Et qu'est-ce que nous lisons au chapitre 5 et le verset 5, par exemple? Nous pouvons même les prendre depuis le début. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » Et on continue, mais je voudrais juste déjà m'arrêter après ces deux ou les trois premières béatitudes. Les premières béatitudes, Jésus va parler de gens qui sont débonnaires, ou traduit dans d'autres traductions, les doux, qui veut dire en fait, si on garde le mot grec praus, qui veut dire la gentillesse, la bonté, la douceur, qui, rappelons-le, est un fruit de l'esprit. C'est la gentillesse qui entre en matière sans blocage, sans résistance, sans contestation, en disant, ok, j'accueille ce que je vois, ce que j'entends, au lieu de dire, mais ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème. C'est ne pas résister à la souffrance et aux besoins des autres. Je suis accueillant, je suis doux, heureux les débonnaires. Et juste après, il est dit, heureux les miséricordieux, ils obtiendront à leur tour la miséricorde. Miséricordieux, c'est un autre mot, elémon, qui veut dire apporter de l'aide. C'est la capacité de secourir celui qui est dans la misère. On a souvent fait ce jeu de mots, miséricorde, jeter la corde à la misère de l'autre, faire descendre la corde à celui qui est dans le trou, dans le puits, et dans sa misère, on le fait sortir. C'est faire quelque chose, exactement ça, c'est avoir en fait un grand cœur. Et Dieu dit plusieurs fois, je prends plaisir à la miséricorde. Et n'est-il pas étonnant que dans le démarrage du grand enseignement de Jésus, les premiers mots qui sortent de sa bouche, c'est être gentil, être débonnaire, être miséricordieux. C'est les premières choses. Et même avant, il est dit, pleurez, heureux ceux qui pleurent. Oui, mais ça c'est pour les faibles, c'est pour les sens, c'est de la sensiblerie ça. Moi je pleure pas. Jésus commence par dire des choses pareilles, des choses qui touchent les besoins. Alors vous allez me dire, mais ça c'est important qu'ils le disent parce que ça concernait les gens du temps de Jésus. Il y a 2000 ans, les gens avaient ce genre de besoins. Ils devaient entendre, arrêtez d'être dur, arrêtez d'être froid, de manquer complètement de compassion. Jésus va dire, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui sont miséricordieux. Et il appelle ces gens-là heureux. Heureux. Et on peut se dire, être heureux, c'est prendre part aux besoins de l'autre. Prendre part, accueillir sa détresse, accueillir sa souffrance, accueillir l'autre tel qu'il est dans ses besoins. Je fais un pas, je suis connecté à l'autre. Je ne suis pas un individu pour moi-même, mais je suis en connexion et je m'ouvre aux autres et à leur détresse en étant miséricordieux, débonnaire, gentil, bon. Bien sûr, cela n'enlève rien à une autre facette que Jésus avait, qui est également de la même force. Il avait du discernement. Il avait la lumière avec lui, il avait cette sagesse en lui. Ça allait de pair avec sa bonté, sa compassion, son humilité. Il avait la force, l'autorité, la sagesse, le discernement. Et Jésus, on ne pouvait pas le manipuler. Par contre, aujourd'hui, le monde sait très bien qu'on peut manipuler les gens. Ce que vous regardez à la télévision, c'est indirectement ou directement de la manipulation. Vous pouvez être manipulé si on vous montre un petit film ou des images d'enfants qui souffrent ou de situations de guerre, etc. Il y aura de l'émotion qui va être générée, mais c'est manipulé par des images. C'est la réalité, mais c'est une réalité à distance. On peut manipuler notre cœur, notre vie, mais Jésus n'était pas manipulable. Jésus avait ce cœur du Père, cette miséricorde, cette bonté, il était capable de pleurer, mais en même temps, il avait la force, la sagesse, l'autorité et le discernement. On ne pouvait pas le manipuler par quoi que ce soit. Même lorsque la femme va venir lui dire, « Seigneur, fils de David, viens me secourir, aie pitié de moi, aie compassion de moi », il est dit carrément que Jésus ne lui répond pas un mot. Tout à coup, Jésus, il est tout froid. Il n'accueille pas, semble-t-il. Mais Jésus a son chemin. Donc, le discernement fait partie de ces valeurs du royaume de Dieu. Donc, les gens du temps de Jésus avaient besoin d'entendre ça comme étant un message en tout premier lieu. Et nous, aujourd'hui, est-ce que ces valeurs mentionnées au tout début des premiers sermons de Jésus, qui parlent de douceur, de miséricorde, etc., est-ce que nous avons besoin d'entendre ces choses aussi en priorité, alors que ces choses sont considérées comme des faiblesses aujourd'hui, mais pas comme une source de bonheur, forcément. Alors que aujourd'hui, l'accent est mis sur le développement de l'individu, ses valeurs individuelles, le bien-être, les loisirs, les plaisirs, les profiter de tout au maximum, ces choses-là sont mises en avant, mais est-ce que ces choses-là apportent aussi le bonheur ? Pas forcément. Mais je crois que Jésus nous dit la vérité, la parole de Dieu, dans le sens que si nous prenons les valeurs du royaume de Dieu dans le serment sur la montagne, nous serons appelés heureux. En tout cas, Dieu dira de notre part et pour nous, tu es heureux de faire cela. Tu fais bien de faire cela. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la sensiblerie. C'est peut-être dans le sens contraire de ce que le monde te montre, mais moi j'approuve et moi je vibre avec toi et moi je te dis tu seras heureux et tu vas vivre ce bonheur personnel. Dans un monde où chacun, où beaucoup sont pour eux-mêmes, où souvent nous-mêmes aussi nous avons développé des réflexes, frères et sœurs. Nous avons été gentils, nous avons donné, nous avons pleuré. Nous avons été compatissants et miséricordieux, mais en retour, qu'est-ce qu'on a reçu ? Et avec ce genre de réaction, avec ce genre d'expériences qui se sont peut-être accumulées, vous vous êtes dit, maintenant, ça suffit. J'ai été gentil, miséricordieux, doux, compatissant, j'ai été tout ça. Mais maintenant, je me protège, moi, j'ai fait ce qu'il fallait, mais je n'ai rien reçu en retour. Et je vais me protéger, je vais même mettre une petite couche de blindage, d'une petite carapace pour protéger ma propre vie. Parce que c'est ma vie qui compte, ce n'est pas la vie des autres. Nous fonctionnons parfois comme ça, et par conséquent, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Beaucoup se sont cantonnés à leur vie personnelle, et cela conduit, écoutez-moi, cela conduit à quelque chose qui est aujourd'hui tragique, un déficit énorme de compassion. Un déficit de compassion. Frères et sœurs, et Dieu veut nous dire ce matin, cette mauvaise nouvelle du déficit de compassion doit devenir une bonne nouvelle. Car il y a encore dans ce monde, et il y a encore dans l'église de Réveil de Genève, des gens qui sont remplis de miséricorde, de bonté, de gentillesse, de compassion, et qui sont heureux en donnant encore. Alléluia. C'est une bonne nouvelle parce que Dieu dit, j'aimerais faire passer ma compassion par toi vers quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et je veux justement t'utiliser, toi, pour le faire. La compassion. Car le monde, en définitive, cherche la compassion. Et même si vous n'avez rien reçu en retour, croyez-vous que Jésus a reçu en retour tout ce qu'il a fait ? Croyez-vous que Dieu, le Dieu de compassion, a reçu en retour la récompense de sa bonté, de sa gentillesse, de sa compassion, de sa miséricorde ? Est-ce qu'il a reçu en retour ? Très, très peu, par rapport à ce qu'il a donné. Mais Dieu va nous donner ses moyens, ses ressources pour que nous puissions donner encore sans nous lasser. Et nous serons encore renouvelés et nous serons encore heureux. Et Dieu nous dira encore, heureux es-tu parce que tu es miséricordieux. Tu vas hériter la miséricorde. Tu vas recevoir en retour ce que tu as semé. Un jour, tu recevras en retour, je te le dis, mon frère, ce matin. Tu recevras en retour. Les comptes de Dieu sont justes. La comptabilité du Seigneur fonctionne, il n'y a pas d'erreur dedans. Il n'y a pas d'erreur d'écriture, il n'y a pas d'erreur de chiffres. Le Seigneur prend note et c'est lui qui va régler les comptes avec précision. Et dans la mesure où j'obéis à ses commandements, je serai toujours gagnant aussi. Je vous disais donc que le monde cherche la compassion. Le monde cherche pourquoi est-ce qu'on a reconnu pendant 17 ans d'affilée, l'abbé Pierre comme étant l'homme français le plus aimé. 17 ans d'affilée, c'était l'abbé Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il a montré de la compassion par cette fondation d'Emmaüs et cet accueil des pauvres dans les années 50 et suivants. Bien, il a été cet homme qui incarnait cette compassion. Et les gens aiment ça. Mais nous ne sommes pas capables de le faire, souvent. Et ce matin, dans ces messages, justement, c'est pas seulement un enseignement, mais je voudrais prier que le Saint-Esprit donne, génère dans nos cœurs ce que nous sommes plus capables de donner. Ce que nous ne sommes plus capables, quand quelque chose est mort, le Dieu de la vie ressuscite. Il y a des sentiments qui sont morts, il y a des expressions qui sont mortes parce que vous avez eu des mauvaises expériences. Et vous vous êtes barricadés, vous avez dit « plus jamais, c'est terminé maintenant ». Et ce genre de parole vous lie, et ce genre de parole doit être brisé si vous voulez exprimer ce que le sermon sur la montagne dit dans ses toutes premières phrases. La compassion, nous l'avons dit, est rarement quelque chose de naturel. Regardez avec moi dans le livre de Job au chapitre 16, livre de Job chapitre 16 et au verset 2. Connaissons la souffrance de Job, on ne va pas entrer en détail. Un homme qui a souffert d'une manière innommable. Et voici que ses amis sont là, sont venus. Je vais dire encore un texte par rapport à ses amis tout à l'heure. Et il va dire ceci, « J'ai entendu beaucoup de choses semblables. Vous êtes tous des consolateurs pénibles ou des consolateurs fâcheux. » Et puis il va dire dans la suite, « Quand est-ce qu'il y aura une fin à vos paroles ? » Moi aussi je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Et il va dire, ces paroles sont du vent. Au verset 6, il est dit, « Eh bien, ma souffrance n'est pas soulagée pour autant par vos paroles. » Nous trouvons toujours des gens qui savent Ils vont vous donner les meilleurs conseils. Il faut faire ceci et cela, ça ira mieux. Ils savent, ils expliquent. Ils ont des réponses. Ah oui, ils ont déjà fait cette expérience eux-mêmes. Ils ont des bonnes idées. Ils analysent votre situation à fond. Mais il manque totalement de compassion. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Des personnes qui, ils ont leurs paroles, ont des réponses, mais ils n'ont pas ou très peu de compassion. Job chapitre 6, verset 14 nous dit ceci. Job chapitre 6, verset 14 nous dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Ça veut dire que tout homme, tout être humain, même le pire, qui n'est pas croyant du tout, il a droit à la compassion de son ami. Vous êtes sûrement l'ami de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et cet ami, au jour où il souffre, c'est sur vous que Dieu compte pour aller le consoler. Pas pour lui dire, lui expliquer, oui, mais je t'avais déjà dit. Maintenant, c'est le moment de croire en Dieu quand même. C'est le moment de changer, mais mes amis, comment exprimer la compassion? Mais il n'y a pas de réponse à cette question. C'est le Saint-Esprit qui va vous montrer de quelle manière il va le faire. C'est pour ça qu'il faut vivre avec le Saint-Esprit. Il va vous communiquer ce que vous n'avez pas. Moi, je ne sais pas comment demain je vais réagir face à une souffrance de quelqu'un. Je ne sais pas. Mais je sais que le Saint-Esprit sera là pour me donner une quelconque impulsion correcte. Regardons maintenant ses amis. Parce que Job, voyez-vous, ce qui se passe, c'est que Job est dans une telle intensité de souffrance que quoi que ses amis disent, il n'y a rien qui passe. Il n'est pas apte à écouter. Il est à vif, et quand quelqu'un est à vif, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il ne va pas entendre un sermon. Il faut juste faire autre chose. Et voilà ce que les amis de Job ont fait au début. Ça, c'était bien. Regardez, chapitre 2, verset 11. Chapitre 2, verset 11. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuar et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Il est marqué dans ma Bible ici qu'ils sont partis de leur pays. Donc ils ont fait un certain trajet. Pour aller le plaindre et le consoler, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis par terre auprès de lui, 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Waouh ! Ils sont venus déjà de loin. Ils voient l'intensité de la douleur. C'est un tel choc que pendant une semaine, ils ne sortent pas un mot, ils ne peuvent pas parler. Et ils ont la sagesse de ne rien dire, juste pleurer, exprimer la douleur à la manière orientale en déchirant ses vêtements, etc. C'est sûr qu'après, ils ont parlé. Mais parfois, la compassion, c'est ça. C'est juste d'être présent. C'est juste être présent. Frères et sœurs, quand vous accompagnez des mourants, quand vous accompagnez des personnes endeuillées, ce n'est pas le moment de faire des grands sermons. Ça ne nous est pas demandé. Dieu ne nous demande pas d'être des théologiens devant la souffrance pour expliquer la souffrance, mais pour être présent. La compassion est présente. La compassion, c'est ne pas être aux abonnés absents, mais c'est d'être présent. Juste être présent avec ce que vous êtes. Vous n'avez rien à faire, rien à dire. Vous êtes présent, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Oui, nous ne sommes pas comme les pleureuses professionnelles qui pleuraient, étaient payées pour faire ça lors des enterrements. Ce n'est pas de la sensiblerie déplacée. Ce n'est pas de la faiblesse. La compassion, c'est une grandeur d'âme. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une grandeur d'âme. La compassion, nous allons maintenant voir la source, parce que nous voulons nous connecter à la source. La compassion, c'est la nature de Dieu. Il est dit dans Exode chapitre 2, tout au début de l'Exode, que Dieu a vu Israël en esclavage. Dieu avait prévu qu'Israël soit son peuple, c'est sa propriété. Et le voilà réduit en esclavage par un plus fort que lui. Il est dit dans Exode chapitre 2, verset 25, que Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Les entrailles de Dieu sont en émoi par ce que vit le peuple d'Israël. La compassion de Dieu fait partie de la nature de Dieu. Et, chose importante, la compassion de Dieu, je crois que ça a été dit dans la parole tout à l'heure, c'est que la compassion de Dieu n'est pas dépendante des œuvres d'Israël. Ce n'est pas parce qu'Israël s'est comporté d'une manière correcte que la compassion a été grande. Mais la compassion de Dieu repose uniquement sur la nature de Dieu. La compassion de Dieu pour toi ne dépend pas de ce que tu as fait, de ce que tu vas encore faire, mais elle dépend de qui est Dieu. Et la compassion de manière inconditionnelle, alléluia, inconditionnelle. La compassion de Dieu dépend de qui est Dieu et sa nature est invariable. Il a ce même cœur, ces mêmes tripes, ces mêmes entrailles pour chacun de nous depuis toujours. Ça n'a jamais changé, frères et sœurs. Dieu est compatissant parce que c'est son être. Bien sûr, le psalmiste va dire au psaume 77 et au verset 10, il va dire, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion parce qu'il ne ressent plus? Il pense qu'il est peut-être dans un moment où il est attaqué, où le diable a commencé à lui chuchoter des mensonges, mais Dieu n'est pas bon, tu vois bien ce qui t'arrive, Dieu t'a oublié, tu vois bien ce qui t'arrive. Et le psalmiste va commencer son psaume en disant, mais Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Et puis dans le texte, il est dit pause, il est marqué pause. Ça veut dire slow down, calme-toi. Dieu permet qu'on exprime ce qu'on ressent. J'ai l'impression que Dieu n'a plus de compassion, qu'il n'est pas là, qu'il m'a oublié. Alors faisons une pause et puis réfléchissons. Regardons ce que Dieu a été auparavant. Regardons qui il est vraiment. Et nous allons tout de suite éloigner ces mensonges de notre ressenti pour faire place à la foi, à la confiance. Alléluia. Faites place à la confiance. Non, Dieu n'a pas oublié d'avoir compassion. Et il le dit tellement dans les prophètes, en particulier Ésaïe au chapitre... Ésaïe va le dire souvent, il va dire, dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face. C'était une épreuve, une tentation, c'était une expérience difficile à passer. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Quand les montagnes s'éloigneraient, si les collines chancelleraient, mon amour ne chancellera jamais, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Et encore dans Zacharie, il y a tellement de textes. Lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Le Seigneur, quoique, voyez-vous, l'histoire d'Israël est tellement compliquée, est tellement une longue histoire avec des hauts et des bas, avec des multitudes de tragédies et d'attaques diaboliques sur le plan de Dieu, mais malgré tout, la compassion de Dieu est intacte. Quelle que soit ta vie, quelles que soient tes expériences, quelles que soient encore les blessures que tu portes aujourd'hui, la compassion de Dieu est invariable pour toi. Tu peux aujourd'hui t'approcher de lui avec confiance. C'est un Père rempli de compassion qui va faire en sorte que tu puisses te relever et qu'il puisse même te guérir au point que tu puisses transmettre la compassion de Dieu par ta propre vie vers les autres. Même si les autres ne méritent rien. Parce que toi non plus, tu ne mérites rien. Moi non plus, je ne mérite rien. Et je prêche ce message à moi-même comme à vous. Parce que j'ai bien vu que dans moi-même, des fois, je suis rempli de compassion, mais d'autres moments, ça ne réagit pas. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta compassion. Et cette semaine, par exemple, j'ai entendu des choses tellement difficiles que je vous le dis franchement, j'ai mis 2 jours, j'étais déstabilisé. Parce que mes réactions premières... Et de dire, Seigneur, comment est-ce possible que ça s'est passé? Comment est-ce possible que tu n'as pas protégé comme ces personnes l'auraient souhaité? Et le diable veut nous déstabiliser. Parfois, les expériences sont tellement dures, ce qu'on en voit, ce qu'on entend, que j'ai dit, Seigneur, ta compassion a besoin de redescendre tout à nouveau dans mon cœur. Parce que si je m'écoutais moi, j'aurais... envie de juger, envie de venger, envie d'être en colère, envie de réagir tout de suite, d'entrer en matière et de prendre la situation à bras le corps pour réagir et faire quelque chose, pour faire justice. Mais Dieu nous dit, c'est pas toi le juge, c'est moi le juge. Parce que si tout le monde devrait passer par ton jugement, il n'y aurait plus personne sur terre. Il n'y aurait plus grand monde, parce que tout le monde aurait eu ses comptes quelque part. Notre réaction, notre jugement n'est pas juste. Il est de loin et complètement faux et tordu. Mais le jugement de Dieu sera parfaitement juste. Et c'est lui qui reste sur le trône. C'est lui qui est le juge parfait. Alléluia. C'est lui qui est le juge et à moi de respecter les commandements, de me soumettre à ça. Et s'il me manque quelque chose, le Seigneur est là pour te dire, je vais te donner ce qui te manque. Je comprends ta réaction, mais je veux te donner ce qui te manque aujourd'hui. La compassion est la caractéristique de Jésus. Je vais pas aller jusqu'au bout de ce que j'ai préparé, mais juste quelques éléments quand même. Parce que autant le message des béatitudes démarre avec des éléments de compassion, autant son ministère dans Luc chapitre 4, lorsqu'il prêche même dans son propre village à Nazareth, il va dire « L'Esprit de Dieu est sur moi », le texte nous dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir sur le cœur ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer la délivrance aux captifs. Ouvrir les yeux des aveugles. Renvoyer libres les opprimés. 5 termes qui sont son mandat divin pour Israël, mais aussi pour le monde, bien sûr. Et ce mandat doit être signé par l'autorité du Seigneur, il le sera, mais aussi par la compassion du Seigneur. Parce que si vous voulez aller à l'encontre de pauvres, de cœurs brisés, de captifs, d'aveugles, d'opprimés, vous devez être équipés de la compassion. Vous devez. Vous ne pouvez pas seulement être prédicateur avec une autorité. Si vous voulez voir les malades guéris, vous devez être équipés de compassion. Les cœurs brisés ont besoin de compassion, comme les amis de Job l'ont si bien montré au début. Les cœurs, le corps, tout était par terre et ils ont été là juste pour pleurer avec lui, juste pour être touchés, c'est tout. Parce que, voyez-vous, la compassion répond à un besoin fondamental que nous avons au fond de nous. Parce que si nous avons de la peine à exprimer la compassion, les autres aussi ont de la peine à l'exprimer face à nous. Et parfois nous sommes en déficit de compassion. La compassion permet, écoutez, la compassion permet vraiment de rejoindre l'autre. Parce que la souffrance nous isole, n'est-ce pas vrai? Quand vous souffrez, vous avez l'impression que vous êtes seul à souffrir et que personne ne peut rejoindre votre souffrance. Mais la compassion, c'est le moyen pour rejoindre la souffrance de l'autre. Il y a ce lien fraternel et communautaire qui fait que dans la compassion, on rejoint la souffrance qui, par définition, m'isole. Je suis seul dans une souffrance. Quelque part dans une souffrance, personne ne peut me rejoindre théoriquement parce que je suis seul à vivre ça. J'ai mes sentiments, mon ressenti, mon vécu. Ce n'est pas le même que celui du voisin. Mais la compassion permet de connecter et de ramener la personne isolée qui souffre dans l'amour, dans la communauté, dans le fait qu'elle se sent moins seule. La compassion me connecte. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais voir avec vous que Jésus a exprimé cette compassion par rapport à des gens qui avaient des besoins physiques, des besoins moraux, des besoins spirituels, et il avait une compassion pour les trois façon de souffrir. Alors il est assez facile d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui a un problème physique, quelqu'un qui souffre dans sa maladie, on a vite compassion. Mais on a beaucoup moins vite compassion pour quelqu'un qui spirituellement est en souffrance. Parce que vous ne pouvez pas voir, ça ne se détecte pas comme ça. Regardez, lorsque Jésus va dire dans Matthieu chapitre 20, verset 29 et suivant, il est dit qu'il arrivait à Jéricho, une foule est là et deux aveugles crient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Jésus s'arrête, les appelle « Que voulez-vous que je fasse ?» Il lui dit « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ». Verset 34 nous dit « Ému de compassion, Jésus touche les yeux et il recouvre la vue ». Donc c'est un besoin physique où Jésus est ému de compassion. Cette même compassion va fonctionner maintenant ailleurs dans Luc chapitre 7, versets 11 à 14, où Jésus, avec ses disciples, sont en marche sur une route et en face arrive un autre groupe. Les deux groupes se rencontrent. Jésus est dans le groupe de la vie, c'est lui la vie, et l'autre groupe, c'est un cortège funèbre. C'est le trajet, c'est le groupe de la mort. Le groupe de la vie rencontre et croise le groupe de la mort. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va gagner? Qui devra laisser le passage à l'autre? Eh bien, c'est le groupe de la vie qui va stopper ce cortège funèbre parce que Jésus est ému de compassion de cette maman qui est déjà veuve et qui enterre son fils unique, donc elle n'a plus aucun secours, plus aucune ressource. Et cette douleur morale, cette douleur du deuil, va tellement toucher Jésus, nous dit le texte, que Jésus va toucher le mort et va le ressusciter, le rendre à sa maman. Quel texte extraordinaire! Le Seigneur va non seulement être ému de compassion, mais il va faire quelque chose. Retenez ça, il est ému et il fait quelque chose. Il guérit l'aveugle, il ressuscite le fils de la veuve. Et puis dans Matthieu 9, 35, il nous est dit que Jésus regarde les gens, regarde la foule qui est là. Et le texte nous dit que, regardons ce texte-là, et là nous sommes confrontés à une souffrance d'une autre dimension. Matthieu chapitre 9, verset 35. À la vue des foules, il eut compassion. C'est la même compassion. Car elles étaient lassées, abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers de la moisson. Donc il y a un besoin spirituel. Il y a des brebis sans berger, il y a des gens qui n'ont pas de repères. Ils n'ont personne pour les conduire, pour les conseiller, pour les aimer. Ils sont seuls, chacun livré à lui-même, dispersés partout. Et Jésus est ému de compassion. C'est vrai que nous sommes dans un temps où nous voulons aller au-devant des gens, évangéliser, toucher, aller vers, comme ça, où Dieu nous conduira. Mais nous voulons faire quelque chose. C'est cette compassion qu'il nous faut. C'est cette compassion qu'il nous faut face aux détresses physiques, face aux détresses morales, mais aussi face aux détresses spirituelles. L'absence de berger est une détresse, est-ce que vous le croyez? Les gens qui n'ont pas de berger sont en détresse. Ils le savent peut-être même pas, mais leur âme et leur esprit crient « Je n'ai personne !» Je n'ai pas de berger. Est-ce qu'il y a un berger quelque part? Est-ce qu'il existe un berger? Et c'est Dieu qui nous envoie, qui t'envoie, qui m'envoie, avec la compassion, avec le regard de Jésus, pour leur dire quelque chose. Et Jésus va se tourner vers les siens et va dire, priez le maître de la moisson. Et les disciples vont dire, oui, on ne va pas seulement prier, mais on va aller nous-mêmes. Ils vont aller eux-mêmes. Et c'est nous qui allons également aller. Je vais terminer là parce que la prochaine fois, je vais prendre un texte où nous allons voir Jésus qui va avoir compassion de quelqu'un qui a les trois problèmes en même temps. Je ne vous dirai pas qui c'est, vous pouvez faire une recherche cette semaine. Mais lui, il est éprouvé dans les trois aspects que je viens d'énumérer, physique, moral et spirituel. J'aimerais terminer ce message ce matin par un appel qui va probablement retentir la semaine prochaine aussi, Colossiens 3:12. Ainsi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous, il faut que je sois d'abord dépouillé de ma carapace, de mon insensibilité, de ma dureté, de mes réflexes de protection, en disant si... Je ne peux pas répondre aux besoins du monde entier quand même. On a nos explications et nos excuses. Je ne peux pas être partout en même temps. Oui, bien sûr, il y a discernement, sagesse, ça va avec. Et pourtant, est-ce qu'on n'a pas usé et abusé de la bonté de Jésus? Est-ce qu'on ne l'a pas pris de partout pour sucer de lui le maximum d'énergie et de force et de compassion? Est-ce qu'on n'a pas pris de lui des gens même qui n'ont jamais rien restitué? On prie de Jésus, on a profité de lui à fond. Et même si on profite un peu de nous, finalement, ce n'est quand même pas bien grave en définitive. On a fait pareil avec le Seigneur. Revêtez-vous. Je veux enlever ces choses qui m'arrêtent et je veux me revêtir de la nature du Seigneur, les entrailles de miséricorde. Parlerons d'autres textes encore la semaine prochaine et je voudrais que nous puissions approfondir ce sujet. On ne va pas passer à autre chose tout de suite. On va approfondir ce sujet. Il est important.